En sol majeur, vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Voilà sur les gradins dans Sol majeur, un dramaturge français qui cartonne. Nom El Khatib, prénom Mohamed, âge 37 ans. Signe particulier, il fait la quasi-unanimité, notamment avec Stadium, une performance documentaire qui réconcilie deux publics irréconciliables, le public de théâtre et les supporters du RC Lens. Qui est cet artiste associé du Théâtre de la Ville à Paris, auteur, metteur en scène de théâtre documentaire, qui n'hésite pas à imposer aspirateur ou baraque à frites sur une scène de théâtre? Et est-ce que la question des origines traverse sa réflexion, lui qui, pour finir en beauté, a traduit la langue de sa mère?
T comme théâtre de l'enfance.
On reste sur les gradins. Bonjour Mohamed El Khatib.
Bonjour.
Petit flashback sur votre parcours. Comment est-ce que le supporter de foot qui a failli, je crois, suivre une carrière de footballeur professionnel s'est retrouvé un beau jour dans le théâtre?
Je crois par accident. Par accident, parce que sinon j'allais jamais au théâtre. Je fréquentais plutôt les stades. Et puis à un moment, c'était plus possible de jouer au football. Alors je me suis concentré sur mes études, sur la sociologie. Et il se trouve que pour gagner un peu d'argent, j'avais passé mon BAFA.
Le BAFA,
le brevet d'aptitude pour être animateur, pour s'occuper d'enfants. Et il se trouve que les stages se font pendant le Festival d'Avignon. Et que j'en ai profité pour voir des spectacles. Et puis j'y suis retourné, j'ai pris goût, j'y suis retourné tous les ans. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Enfin, je crois que j'aimerais bien faire ça. J'étais très sensible aussi, notamment aux Flamands. Les Belges arrivaient et ils cassaient un peu les codes du théâtre avec une très grande liberté. Je me suis dit, je crois que c'est ça que je veux faire. Et ça a commencé comme ça.
Donc on n'allait pas du tout au théâtre dans la famille El Khatib, d'après ce que je comprends. Mais est-ce qu'il y a eu, après ce Festival d'Avignon, cette première expérience en tant que spectateur, un coup de cœur, un choc esthétique fondateur pour vous?
Oui, je m'en souviens très bien. C'est Jan Lowers, La chambre d'Isabella. Et je me suis dit, waouh, mais on peut faire du théâtre comme ça.
C'est-à-dire
casser les frontières. On peut chanter, on peut danser, on peut avoir une espèce de diversité sur scène, d'une vieille dame, des très jeunes. Enfin, ça ressemblait à la vie et pas une espèce de carcan, pas une espèce de récitation, un exercice de style un peu plat. Et ça m'a bousculé. Je me suis dit, moi, ça me donne du désir, quoi. Ça me fait vivre, ça me donne envie, quoi.
Alors, il y a eu ça, mais il y a eu aussi un film d'Alain Cavalier, Pater, où avec une petite caméra numérique, il filme, il explore la relation entre le réalisateur et son acteur, donc entre Cavalier et Vincent Lindon, avec une thématique comme ça autour du retour de l'enfant prodigue et des séquences improvisées entre un président de la République et son premier ministre.
J'ai l'impression que je peux vraiment être premier ministre, si je suis bien entouré. Si je choisis des bonnes personnes, si j'ai la bonté en moi, que j'ai du bon sens, que je sais trier les bonnes et les mauvaises idées, pas tant en trouver, juste écouter et savoir repérer ce qui est bien et ce qui est pas bien. Si je me rase tous les matins, que je mets un costume et une cravate, j'ai 51 ans, qu'est-ce qui empêche? Rien.
Alain Cavalier, donc... ancien assistant de Louis Malle, faut quand même le rappeler, qui a instauré une nouvelle manière de filmer fin des années 70, en se rapprochant dans ses films de la forme documentaire. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour vous, Mohamed El Khatib, quand vous êtes tombé sur son film Pater?
La force des grands artistes, je crois, c'est de vous faire croire que tout a l'air très facile et que c'est très simple. Et que filmer, c'est finalement un jeu assez enfantin. Vous prenez une caméra et puis vous la manipulez très facilement, elle circule de main en main. D'une certaine façon, je me suis autorisé, ou il m'a autorisé à moi aussi m'acheter une caméra et aller filmer ma mère. Et donc j'ai écrit à Alain Cavalier en disant, voilà, grâce à vous...
Ça a été comme un feu vert pour
vous. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Il m'a autorisé. Je me suis dit, c'est très simple. Alors pourquoi
pas
moi?
Parce que dans le film, en fait, Lindon et Cavalier redeviennent Vincent Lindon et Cavalier, redeviennent eux-mêmes.
Tout à fait. Et avec une grande liberté, ils pratiquent ce jeu enfantin. C'est comme des enfants qui se disent, si on jouait à être président et premier ministre, et si on y allait? Et d'un coup, ils font éclater les codes traditionnels du film, du documentaire, de la fiction. Il y a une grande liberté. Et d'un coup, ça donne envie de s'emparer de cet outil. et de le rendre partageable. Et du coup, c'est pour ça que moi, assez naïvement, sortant du film, j'ai acheté la caméra. Et alors, j'ai écrit à Cavalier en lui disant bah, j'ai acheté la même caméra que vous, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Et il a accepté. Bon, la seule petite erreur, c'est que je n'avais pas acheté tout à fait la même caméra. Moi, je l'avais payé 3 500 €, alors que la sienne coûte 800 €. Et très élégamment, il m'a proposé de me rembourser la différence.
Ah oui.
Et à partir de là, on s'est...
C'est le début d'une association. D'ailleurs, il y a des conversations dont on reparlera entre vous tout à l'heure. Pour un sol majeur, même si on le pressent déjà, on va essayer quand même de voir dans quelle catégorie vous jouez.
Das wälzt sich über mir. Der Mond verbirgt sein Licht. Es zucken rote Strahlen mir übers Haupt. Ich fühl's, du schwebst um mich, Flätergeist. Enthülle dich. Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben. Du musst und kostet es mein Leben.
Que voulez-vous, Monseigneur? Tous vos vassaux, touchés de l'abolition d'un certain droit fâcheux que votre amour pour madame...
Eh bien, ce droit n'existe plus. Que veux-tu dire?
Qu'il est bien temps que la vertu d'un si bon maître éclate.
F.
Elle m'est d'un tel avantage aujourd'hui que je désire être le premier à la célébrer à mes noces.
Comme?
Te moque, ami.
Faust.
L'abolition d'un droit honteux n'est que l'acquis d'une dette envers l'honnêteté.
Au Figaro.
Alors oui, Faust, avec la réalisation de tous ses désirs contre son âme au diable, ou bien Figaro, ce valet de chambre qui se moque de la noblesse, Mohamed El-Khatib.
Ah, j'ai une petite tendresse pour Figaro.
Eh oui, la revanche des classes, de la classe ouvrière, c'est ça?
Et une revanche tranquille, quoi, qui se fait pas dans l'adversité, mais plutôt dans le détournement, pour déplacer le regard. Et pour réduire un peu la distance qui peut exister entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas.
Et vous avez vu ces classiques? Là, on est dans Beaumarchais, mais est-ce que vous avez vraiment goûté Molière, Shakespeare, Racine?
J'ai envie de dire malheureusement ou douloureusement. Enfin, heureusement, je les ai fréquentés, notamment en Hippocagne et en Cagne, où on les a avalés, très mal digérés. Et heureusement, j'ai pris mes distances. Enfin, je suis très fier, ça appartient au patrimoine et c'est très bien, mais... Ce sont des objets, en tout cas, qui ne me regardent plus.
Pourquoi ?
Parce que d'une certaine façon, ils relèvent du théâtre bourgeois ou d'une pratique du théâtre qui m'est devenue totalement étrangère. On se met à singer des codes de la société qui ne correspondent plus à aucune réalité sociale aujourd'hui. Et du coup, j'essaie de prendre mes distances vis-à-vis de ces pratiques-là.
Et vous y arrivez bien. Est-ce qu'honnêtement, si un soir se joue Hamlet de Shakespeare et vous êtes invité, Mohamed El-Khatib, et puis de l'autre, un match du Racing Club de Lens, vous faites quoi? Trop facile comme question, hein?
Non, c'est un piège. En même temps, j'ai un immense respect, une dette infinie envers Shakespeare.
Ah bon?
Ouais, mais je crois que plutôt ce que je ferais, c'est que je prendrais le texte de Shakespeare, j'irai voir le match et je le lirai après à la maison.
Vous faites tout en même temps, vous mixez tout, quoi, en fait.
Je crois. Et d'ailleurs, c'est ce que font les Anglais merveilleusement bien, parce que j'ai mené l'expérience Stadium en Angleterre. Et dans les stades, il y a beaucoup plus de mixité dans les salles de spectacle et dans les stades. Et les gens vont à la fois au match et à la fois voir Shakespeare, ce qui est un peu plus compliqué en France.
Alors cette performance documentaire Stadium peut se résumer juste en images. Sur scène, il y a des gradins sur lesquels est installée une cinquantaine de supporters du Racing Club de Lens, qu'on a vu d'abord en préambule filmé dans des petites séquences vidéo. Et puis la reine du spectacle, c'est Yvette, 85 ans, doyenne supportrice du club, rejointe sur ces mêmes gradins par toute la famille. Et tout ce petit monde est interviewé par leur plus grand fan, j'ai envie de dire, c'est-à-dire vous, le metteur en scène Mohamed El-Khatib. C'est quoi votre définition à vous du théâtre ?
Pour moi, c'est l'art de la rencontre. C'est l'art de la rencontre et c'est une façon de se déplacer soi-même et déplacer le regard, votre propre regard d'abord, et le regard des gens que vous invitez à partager ces expériences.
Donc c'est l'art de la rencontre, c'est-à-dire que c'est pas forcément un texte, c'est pas forcément des personnages, c'est pas forcément une dramaturgie effectivement classique à laquelle on est habitué. Est-ce que je me suis posé cette question, et en regardant Stadium notamment, est-ce que la fiction, c'est finalement quelque chose qui ne vous intéresse pas ?
C'est quelque chose qui m'intéresse en creux. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion dans lequel je ne crois plus. C'est-à-dire de regarder Alain Delon qui va mourir pour la 14e fois, ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle, je n'y crois pas.
Donc en fait, le théâtre, l'idée du théâtre, où il y a une espèce d'illusion à laquelle c'est un code tacite, soit on croit, soit on ne croit pas, l'illusion théâtrale, ça ne marche pas sur vous.
Ça ne marche pas et elle ne m'intéresse pas. Moi, en tant que pratique personnelle, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de revisiter, de faire un travail d'écriture d'abord avec des gens qu'on n'entend plus et qu'on ne voit plus. Et de faire arriver la fiction. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est vrai que je travaille sur des sujets, là, en l'occurrence, pour ce qui est de Lens, ce sont des classes populaires. Et quand on s'intéresse aux classes populaires, souvent, c'est toujours par l'entrée de documentaires. Comme s'ils n'avaient pas le droit de rêver, d'imaginer, comme si... Or, la fiction, elle existe, elle est présente, puisqu'on écrit avec les gens, on revisite leur quotidien, leur réalité. Mais la fiction est presque un prétexte pour cultiver ces rencontres.
Alors, il y a comme un mouvement, hein, en ce moment, dans le théâtre en France, où le texte de l'auteur est un peu mis de côté pour laisser place... à ce qu'on appelle les écritures collectives, avec, comme vous dites, le récit des vrais gens. C'est-à-dire qu'après la télé-réalité, on parle aujourd'hui de théâtre-réalité. Est-ce que derrière cette démarche, mais vous le disiez un peu en préambule, Mohamed El-Khatib, est-ce qu'il n'y a pas une grosse colère politique, sociale, vis-à-vis des élites ?
Il y a deux choses. Une petite parenthèse, c'est que moi je réfute le terme de théâtre-réalité. Au même titre que la télé-réalité, puisque c'est exactement le contraire, ce que je pratique, c'est que la télé-réalité, on prend les gens à leur insu, on leur impose des scénarios en essayant de provoquer des choses un peu voyeuristes, un peu puantes, de façon à les manipuler, à les instrumentaliser. Or, moi, je rends les gens complices de ces expériences.
Ils sont acteurs pour vous.
Ils sont tout à fait, ils sont complètement acteurs, et ils savent ce qui est en train de se jouer, et on coécrit la pièce ensemble. Et après, dans le fond, effectivement, ce qui est le moteur de ça, ce sont des questions politiques. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont relégués dans des territoires qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus, des langues qu'on n'entend plus, des corps qu'on n'a plus l'habitude de voir. Et c'était une façon de sortir un peu de l'entre-soi. Et c'était une façon de faire un pas de côté, d'ouvrir une forme de diversité, mais d'abord sociale.
Donc il y a une colère, peut-être à renouer avec votre enfance, à vous, où la famille El-Khatib n'allait jamais au théâtre. Et pourquoi est-ce qu'elle n'allait jamais au théâtre ?
Il est là le problème, oui, tout à fait. Pourquoi elle n'allait pas au théâtre ? Pourquoi à un moment donné, elle s'est sentie exclue ? Et le fruit de cette exclusion, c'est là-dessus que j'essaie de travailler, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas réduit le chemin pour pouvoir aller au théâtre.
Est-ce que vous avez souffert, vous, de la condition culturelle de vos parents, ici en France ?
Non, peut-être j'étais un enfant peut-être un peu ingrat, ou des moments j'ai eu un peu honte de mes parents parce qu'ils parlaient très mal français, ils parlaient français avec la pioche, les rencontres parents-prof c'était toujours un peu douloureux, etc. Et en même temps ils ont fait le maximum, ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec cette obsession, les livres c'est important, c'est par les livres que vous allez vous en sortir, donc il y avait aussi cette pression-là.
Vous aviez précédemment, Mohamed El-Khatib, monté Moi, Corinne Dada, qui jouait à être ce qu'elle est dans la vie, femme de ménage.
Moi, je suis légitime pour parler d'art contemporain. Je m'appelle Dada. Et je passe mes journées à te débider. Faut arrêter de prendre les femmes de ménage pour... Il y a toujours un type pour me demander si je connais le dadaïsme. Et je lui réponds toujours, ouais, Dada, connard.
Extrait en sol majeur de Moi, Corinne Dada, à la sauce en sol majeur, hein, avec Schubert. Et là, sur scène, bah, c'est le même procédé que pour Stadium. Vous êtes Mohamed El-Khatib sur le côté de la scène. Et vous jouez, je vais mettre ça en italique, vous jouez avec elle, mais vous jouez à quoi ?
Je l'accompagne. Les gens que j'invite à participer à mes expériences, je ne les mets pas dans un aquarium, une espèce de vivarium où on les observerait. C'est-à-dire, je prends le risque de me mettre en jeu avec eux.
Pourquoi ce procédé d'interviewer à chaque fois vos acteurs ?
Parce que c'est une rencontre, et j'essaie de recréer les conditions de cette rencontre, je ne veux pas les abandonner. Et ça me permet aussi d'assumer cette responsabilité d'être avec eux co-signataires, et si quelqu'un doit jeter des tomates, enfin je suis prêt à les recevoir, quoi je veux dire.
Vous en avez déjà reçu ?
Pas des tomates, mais en tout cas il y a aussi...
Verbalement.
Il y a certaines formes d'hostilité devant cette forme théâtrale qui fait irruption là, dans des endroits où elle n'est pas attendue.
Est-ce qu'on peut, en mettant les vrais gens, comme on dit aujourd'hui sur le plateau, est-ce qu'on peut échapper dans le même temps au voyeurisme ?
Je crois que ça dépend de la façon dont on le fait. Et quelque part, le voyeurisme, pour moi, il ne me pose pas de problème dès lors que ça ne devient pas obscène. C'est-à-dire... D'une certaine façon, c'est une prise de risque. Corinne Dada, elle prend des risques. Quand je parle de ma mère ou que je montre des images d'elle, je prends les risques.
Alors, ce serait quoi la limite, là, pour Corinne Dada ?
C'est d'abord le consentement de la personne. Et c'est le fait qu'il y a une écriture derrière tout ça. Il y a une écriture, il y a une langue, il y a un travail, il y a une construction qui fait que c'est d'abord un objet de théâtre.
Alors, amener les vrais gens sur le plateau, apparemment, ça fait plaisir, ça fait l'unanimité, même si ça grince dans certains coins. Mohamed El-Khatib, mais est-ce que faire plaisir, c'est finalement le but de l'art, selon vous ?
Non, non, mais moi d'ailleurs, je ne fais pas ça pour faire plaisir. J'ai plaisir quand on y trouve, on a une dimension de plaisir, de joie, et on ne boude pas notre plaisir dans ce stadium. Mais avant tout, ce geste que je pose, c'est un geste critique. Critique envers la société, envers la façon de faire du théâtre, à l'adresse des spectateurs qui sont là, en leur disant mais qu'est-ce que vous venez regarder ou qu'est-ce que vous attendez du théâtre aujourd'hui ?
Alors vous avez retrouvé votre père spirituel, on peut le présenter comme ça, Alain Cavalier, dernièrement, votre frère d'armes, pour des conversations qui sont en ce moment sur pause mais qui vont sans doute reprendre bientôt. Cavalier, dans son travail d'épure, il a été par exemple jusqu'à faire un film sans dialogue. Votre prochain challenge à vous, Mohamed El-Khatib, c'est quoi ?
C'est de faire un projet sur un navire, une création avec des marins du monde entier,
des vrais navires sur la vraie mer,
exactement, et qui se joueraient que dans les ports, les différents ports d'Europe. Voilà, ça c'est le prochain défi qui est en cours.
C'est la question des migrants au cœur du projet ou pas ?
D'une certaine façon, et puis celle de la mondialisation absolument pas heureuse, qui est celle de la condition de vie des marins qui vivent dans des conditions totalement précaire. Et puis, ce sont des gens qui sont de toutes les nationalités. Ce sont des trajectoires géographiques, historiques, sociales, assez extraordinaires. Et je voulais m'intéresser à ces gens qui partent de chez eux pendant 6 mois, qui reviennent chez eux de temps en temps. Ça pose des problématiques assez essentielles.
Où l'on apprend en sol majeur qu'El-Khatib est aussi un patronyme américain. On va écouter Annie El-Khatib, 36 ans. Il vit à Los Angeles, hein. Il est d'origine palestinienne et philippine, mais c'est un Américain. C'est un rocker magnifique, tatoué et très inspiré. Pourquoi vous vouliez écouter « Calm Down » ?
J'adore cette chanson d'abord, j'adore ce type. Et longtemps, les gens ont cru qu'il était de ma famille. Et ce qui n'est absolument pas le cas, je ne le connais pas.
Entretenir l'illusion. Hein.
Certes, je voulais entretenir l'illusion. Et puis je me suis dit, il n'y a pas de raison, il ne faut pas laisser l'apanage à François Fillon, le fait de faire travailler sa famille. Et moi aussi, je vais m'y mettre.
Better come now, 'cause if he ain't gonna come, I'm gonna do what I want. If God's gonna come down, she better come now, 'cause if she ain't gonna come, I'm gonna do what I want.
Quelque chose de majestueux chez Annie El-Khatib. Alors, il n'est pas tout à fait de la famille de Mohamed El-Khatib. Croyez bien qu'on le regrette d'ailleurs en coulisses. Si, si. Auteur dramaturge français qui fait monter sur scène les vrais gens, ceux qui ne vont jamais au théâtre. Mohamed El-Khatib est issu lui-même de la vraie vie. Nous le recevions au moment de C'est la vie, sur le deuil d'un enfant, spectacle en tournée dans le cadre du Festival d'automne au moment de l'entretien. Née dans le Loiret au sein d'une famille marocaine, El Khatib était un bon milieu de théâtre, question football, mais l'arbitre suprême en a décidé autrement. Diplôme de Sciences Po Rennes, DEA en géographie à Mexico, quelques cours de sociologie du sport dans le Pas-de-Calais, quelques reportages culturels au monde diplomatique, mais finalement, le meilleur terrain d'échauffement s'est avéré être le plateau de théâtre.
¿Cuáles son las palabras que solamente puedes decir en tu primer idioma?
Quels sont les mots que vous ne pouvez dire que dans votre langue maternelle?
Aïma, Fenta Aïma. Où es-tu, maman?
Ça, vous ne pouvez pas le dire en français.
C'est compliqué.
Ça n'a pas le même goût.
Ça n'a pas la même saveur. Hein.
Pourquoi vous dites que vous avez une langue trouée qui serait l'arabe?
Parce que je l'ai perdue au fur et à mesure et c'était... Chaque fois que je retourne au Maroc, j'y étais encore il y a une semaine pour un tournage. C'est-à-dire systématiquement, des mots français viennent se mêler à l'arabe. Et donc c'est un arabe comme ça, trouvé par du vocabulaire français qui surgit. Donc c'est une espèce de mélange entre l'arabe et le français.
Pourtant c'était la langue avec laquelle vous communiquiez avec votre mère.
Tout à fait, c'était la langue maternelle. Et jusqu'à mes 12-13 ans, on ne parlait qu'arabe à la maison. Et puis petit à petit, ça s'est un peu délité. À mesure aussi que les allers-retours au Maroc étaient moins régulier, qu'on grandissait, et avec mes sœurs, au lieu de parler l'arabe, on s'était mis à parler le français entre nous. Et du coup, j'ai pris un peu de distance avec la langue, et aujourd'hui, c'est plus que j'ai presque un peu honte de... Quand je parle arabe, c'est-à-dire très vite, je suis démasqué, on voit tout de suite que j'ai plus la langue. Et alors, dernièrement, j'étais à Tanger, et je parlais, vous rendez compte, l'attaque suprême, on m'a dit, mais... Quand tu parles arabe, tu as un petit accent du rif, hein, tu as un petit accent patois, quoi. Et donc, j'ai déjà un mauvais arabe, et en plus, on me dit que c'est un accent rif. Hein.
Oui, mais en même temps, votre maman, elle vient des montagnes du Rif.
Tout à fait. Et j'en suis très fier, c'est une terre de résistance, là-bas.
Qu'est-ce qui s'est passé, là-bas?
C'est un territoire qui a été extrêmement maltraité, d'abord par les Français, par le général Lyautey. Ce sont les endroits où il y a eu les premiers gazages, au gaz moutarde. Donc il y a eu une génération de résistants. Et puis après, c'est un territoire qui a été délaissé par le royaume. Hassan II a été extrêmement virulent à cet endroit. Ça a continué, là encore très récemment, il y a eu des émeutes. C'est un territoire périphérique complètement délaissé, socialement extrêmement marginalisé, et avec très peu de ressources économiques. La seule chose qui persistait un peu, c'était la culture de la drogue, malheureusement, ce qui en a fait une plaque tournante un peu dangereuse, et en même temps, pas d'avenir social pour la jeunesse rifaine.
Et alors, est-ce qu'elle compte pour vous, ces montagnes du Rif?
Oui, j'y suis très attaché.
Est-ce que vous, Mohamed El Khatib, vous avez vécu un entre-deux culturel, en tout cas jusqu'à la prime adolescence, confortable ou problématique dans ce Loiret des années 80?
Non, plutôt confortable dans les années 80. En l'occurrence, parce qu'il y avait énormément de mixité. Il y avait une vraie prise en charge. À l'époque, c'était notamment le Parti communiste qui donnait par exemple des cours du soir de français. Il y avait beaucoup de sorties culturelles organisées par les comités d'entreprise. Il y avait une vraie mixité, c'est-à-dire que l'ouvrier pouvait fréquenter le cadre, le contremaître. Il y avait des sorties familiales. Et petit à petit, il y a eu un délitement là, de ce lien social. Et c'est devenu un peu plus... Il y a eu des refermements, des enfermements de type un peu communautaire.
Et vous, le repli communautaire, comment vous êtes positionné par rapport à ça?
Bien, c'est-à-dire que ma chance a été assez vite de m'échapper, quoi. Et l'émancipation est passée par le fait de devoir migrer à Orléans, à l'internat, pour pouvoir faire une hypocagne et une cagne. C'est à partir des années 90, où, alors que je me considérais comme français, à partir des années 90, où arrivait le terme « arabe ». Qui m'était un peu étranger.
Mais est-ce que s'appeler Mohamed, ça a été un problème dans votre parcours?
Ben, ça dépend des endroits. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, dans le champ scolaire, ça a été une chance, je crois, parce que j'ai plutôt, je peux le dire, bénéficié de discrimination positive. C'est-à-dire que d'enseignants, militants, un supplément d'âme envers moi qui m'ont aidé effectivement à travailler, à parfois m'aider à prendre en charge des livres. Mais par contre, dans le quotidien, là à Paris, quand je veux louer un appartement, c'est compliqué.
Ça reste compliqué.
Ça reste compliqué quand je veux réserver un restaurant. Parfois, on me le refuse et puis 5 minutes après, on l'accepte à des amis. Donc encore maintenant, c'est une réalité. Et pourtant, je gagne correctement ma vie, j'ai un CDI.
On peut trouver votre fiche Wikipédia sur Internet.
C'est pas compliqué. Quand vous habitez en banlieue, je pense que c'est beaucoup plus compliqué.
Est-ce que cela dit, la question identitaire pourrait devenir un terrain, je parle à l'ancien footballeur, de réflexion pour vous, dramaturge?
Moi, j'ai toujours pris mes distances par rapport à la question identitaire. Je la pose d'abord en termes sociaux. Je la pose d'abord en termes de quelque chose qui tend à disparaître, qui sont les classes sociales, alors qu'elles sont toujours omniprésentes. En tout cas, il y a toujours des barrières entre les différentes couches de la population. Et quand on la pose d'un point de vue social, d'abord, on n'exclut personne, y compris les Français de souche, dont certains souffrent autant que les derniers migrants arrivés. Et il se trouve que si on prend ces 20 dernières années de politique de la ville, qu'on a fabriqué des bombes à retardement, qu'il y a des ghettos dans lesquels, de fait, se pose la question identitaire parce qu'on y a parqué toutes les nationalités, toutes les vagues d'immigration successives.
Mais donc, vous êtes dans la distance. Ce ne sera pas une page d'écriture future.
En tout cas, pas tout de suite. Mais comme j'étais très en distance avec le Maroc, comme j'étais un peu fâché, je ne supportais pas l'autoritarisme, la corruption sous Hassan II, la façon dont on étouffait la jeunesse. Et puis, depuis que ma mère est décédée et qu'elle a voulu être enterrée au Maroc, je crois qu'il y a eu un début de réconciliation où j'ai plaisir à retourner au Maroc et à aller séjourner là-bas.
Comment j'étais quand j'étais petit? Je me souviens, tu n'acceptais pas qu'on te donne d'argent. Jamais. C'est fini ce temps-là, maman. Voilà un extrait qui vous fait sourire de « Pour finir en beauté », sous-titré « Pièce en un acte de décès », Grand Prix de littérature dramatique 2016, et qui rassemble Mohamed El-Khatib, plein de choses, hein, des extraits de journaux, des mails, des messages téléphoniques, des SMS, des bribes d'échanges avec votre père, des enregistrements. Alors, des enregistrements, ça c'est important, dans la chambre d'hôpital de votre mère atteinte d'un cancer, où vous traduisez ses propos pour le médecin.
Quelle pose les questions? Allez, vérifier. Je vais sortir.
Et je vais sortir aujourd'hui. Ils vont regarder, ils vont nous dire. Ils vont regarder les examens et... Ils n'ont rien dit, mon fils? Pas encore. C'est peut-être papa. Allô? Ça va, comme toujours. Un petit peu, comme d'habitude. Je viens à peine de me reposer un peu. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils m'ont dit on va regarder les examens. Ils m'ont refait une prise de sang ce matin. Et là, ils m'ont dit ils vont regarder. Ils attendent de revoir les examens. Ils m'ont dit si les examens sont bons, on vous laisse sortir. Et si les examens ça va pas, vous allez devoir prolonger un peu votre séjour ici. Et donc là j'attends encore. Non, je suis avec Mohamed.
Si.
Oui, il est venu parce que... Il y a des mots que je comprends pas avec le docteur.
C'est comme chambre intérieure.
Alors comment vous avez, Mohamed El-Khatib, décidé un jour de franchir la porte de la chambre d'hôpital de votre mère malade et mourante en tant que dramaturge?
Je crois que c'est la sensation à un moment donné inconsciente, hein, de se dire que la fin est proche et qu'il faut garder une trace, et notamment la trace de la voix, parce que je sais que les images restent toujours, mais le grain de la voix, c'est quelque chose qui disparaît, et je voulais absolument capter ça. Et comme on parlait très peu avec ma mère de choses intimes, et qu'il me fallait un prétexte, et j'ai trouvé comme prétexte le fait de devoir écrire une pièce de théâtre sur mon enfance. Et j'ai dit à maman, écoute, je vais t'interviewer, raconte-moi comment j'étais quand j'étais petit.
Vous êtes un vrai bonimenteur. Hein. Mais l'idée, c'était en fait d'arrêter la vie et de mettre sur pause cette vie qui était en train de partir.
Oui, tout à fait.
Alors, il y a des moments assez doux qu'on imagine bien. C'est lorsque vous faites la lecture à votre mère, qui n'a pu lire dans sa vie qu'un seul livre, le Coran. Pourquoi cette idée? Comment ça vous est venu de vouloir lire Proust ou Albert Cohen à votre mère?
Bah, je crois que c'est un lever d'un fantasme. C'est la question de la présence, en fait, et de chercher des prétextes. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'œuvres d'art qui sont des prétextes merveilleux pour créer du lien entre les gens.
Mmh. Donc vous avez pu lui lire une phrase comme « L'après-midi du vendredi, qui est chez les Juifs le commencement du saint jour de Shabbat, elle se faisait belle et ornée, ma mère. » Extrait du livre de ma mère d'Albert Cohen. Est-ce que ça la faisait réagir d'une manière ou d'une autre, votre mère, à vous?
Non, pas du tout. Elle était très terre à terre pour elle. Elle disait « Bon, voilà, tu arrêtes un peu, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'elle raconte là ?» Et bon, parfois je traduisais, parfois pas. C'était assez ludique.
Il y a des moments de vie, en fait, qui ne sont pas des moments de théâtre, à proprement parler, comme ce moment un peu tragique où vous dites la vérité à votre mère sur son état de santé, vous lui dites « les médecins ne peuvent plus rien faire ». C'est un drôle de moment, ça.
C'est un moment très compliqué. C'est encore maintenant, je ne sais pas si j'ai bien fait de dire ça. On n'était pas d'accord avec mes sœurs, est-ce qu'il faut dire ou pas dire à quelqu'un qui est condamné? Et après, là où j'ai pris conscience, c'est quand j'ai voulu partager ce moment, je me suis dit, il faut le partager parce que c'est une vraie question de société qui concerne tout le monde. Et puis, c'était assez cocasse parce que moi, je lui dis, et je crois qu'elle n'entend pas à ce moment-là. Parce qu'elle me dit, ah oui, mais peut-être on pourrait aller voir, il y a un herboriste là, avec du miel et des plantes qui soignent les cancers. Et je suis très heureux d'avoir enregistré ça parce qu'il y a des choses qu'on n'entend pas au moment où on les vit. Et par exemple, quelques semaines avant de mourir, ma mère me dit, j'ai failli mourir cette nuit, je pense que je vais mourir. Et quand je réécoute l'enregistrement, je m'entends lui répondre « Mais non, maman, dis pas de bêtises. » Alors que j'aurais tellement aimé pouvoir lui dire « Mais maman, alors qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu as pas fait qu'on pourrait faire ?» Et c'est très compliqué quand on n'est jamais prêt.
28 février. Note de carnet. C'est toujours dans les choses que la tristesse se réfugie. Cela faisait 2 jours que nous n'avions pas pleuré. Il était environ 19h, et il nous fallait servir la soupe à tous les convives compatissants, dont on ne savait plus s'ils étaient là pour la soupe ou pour ma mère ou un peu des deux. On commence alors à chercher les petits bols, mais on ne les voit pas. Je regarde, je ne les trouve pas, mes sœurs s'y mettent, mon père aussi, rien. Rien. Et je sens que la tension monte lentement à cause de ces petits bols à soupe. 15 minutes. Et on n'arrive toujours pas à mettre la main sur ces petits récipients hémisphériques destinés à accueillir la soupe et qui nous permettraient de mettre les gens dehors. Ils doivent bien être quelque part, ces petits bols à soupe. Il est temps qu'ils apparaissent, ces foutus bols à soupe, parce que je sens que ça va plus aller. Et soudain, ça commence. Mon père s'effondre en larmes. Il reçoit de plein fouet la disparition des petits bols. Il mesure combien une soupe orpheline de ces bols ne sert à rien. Et à cet instant, toute la famille, absolument toute la famille, se remet à pleurer devant cette béance amère qui nous rappelle qu'elle n'est plus là, la seule personne qui savait que ces putains de petits bols se trouvaient à l'intérieur de la soupière.
La disparition des petits bols, c'est presque une petite page flaubertine de ce moment porcelaine, les premières larmes. Extrait en sol majeur de Pour finir en beauté, avec vous Mohamed El-Khatib. Alors il y a ça, c'est une page flaubertine, mais il y a aussi donc votre vraie mère dans une vraie chambre d'hôpital avec un vrai diagnostic du médecin et puis un vrai chant du Coran, le chant mortuaire sur lequel vous lisez l'acte de décès. Au final, au-delà de cette trace que vous étiez en train de compulser, quel est le sens de cette démarche, à savoir greffer un bout de votre vie intime, de votre chagrin réel, sur une scène de théâtre?
C'est le pari que cette intimité-là va rencontrer celle des spectateurs. Et que plus je prendrai le risque d'aller loin dans mon intimité, d'exposer le plus honnêtement possible et le plus en profondeur possible cette traversée extrêmement intime qui est la question du deuil, de faire en sorte que ma mère devienne la mère de chacun des spectateurs et que chacun puisse y retrouver sa propre mère.
Au fond, il n'y a pas tellement de différence pour vous entre ce moment de théâtre, Pour finir en beauté, et le moment des condoléances dans la vraie vie?
Oui, c'est-à-dire que c'est un rituel, c'est une façon et ce qui se perd un peu.
Mais il y a une perte, effectivement, de repères et de rituels dans notre monde occidental. Comment est-ce que vous les vivez, les rituels, quand vous êtes au Maroc? Ça n'a rien à voir.
C'est le jour et la nuit, c'est-à-dire entre l'approche clinique totalement aseptisée ici en France et en même temps on est arrivé au Maroc, c'était Alors parfois trop, mais ça déborde de générosité. Tout le monde vient vous embrasser, pleurer. Il y a quelque chose très vite de très festif. Et d'un coup, vous n'êtes pas seul et vous sentez qu'il y a une espèce de chaîne humaine de solidarité et qui fait beaucoup bien et qui vous décharge d'une certaine façon. Vous êtes pris en charge. Et dans ces moments-là, c'est extrêmement précieux.
Alors, je crois savoir que vous ne détestez pas un certain Roland Barthes. J'aimerais qu'on partage, puisque vous êtes l'homme du partage, Mohamed El-Khatib, vous faire écouter son analyse de la question de la mort de la grand-mère dans La recherche du temps perdu de Proust.
Ce qui peut être écrit de la mort, c'est le mourir. Et le mourir peut être long. Et Proust a admirablement dit les épisodes, les degrés, les passages du mourir. Je veux dire qu'à chaque moment du récit de la mort de la grand-mère, il a donné un supplément de concret. Je ne trouve pas d'autre mot. Comme s'il allait à la racine du concret. Par exemple, pendant la maladie, cette sorte d'épisode absolument poignant, le peignage douloureux des cheveux par Françoise. Pourquoi est-ce que c'est vrai et non pas réel ou réaliste? Parce que cette radicalité du concret, je dirais, en sachant donner le concret absolu et radical, l'écrivain désigne ce qui va mourir. Plus c'est concret, plus c'est vivant, et plus c'est vivant, plus cela va mourir. Peigner les cheveux de quelqu'un qui va mourir, c'est le déchirement absolu.
Vous êtes de nouveau sur les bancs d'Hippocagne avec Roland Barthes, Mohamed El-Khatib, tout ça pour en sol majeur. Est-ce que vous auriez une réaction à la lecture de la mort chez Proust par Roland Barthes?
Ah mais c'est merveilleux parce que ça me touche beaucoup. C'est merveilleux parce que il dit tout. Ce contre quoi je me bagarre, c'est-à-dire la théorie, les idées générales, et d'un coup, il vous ramène à la radicalité du concret, et c'est exactement ça. Et c'est ce qu'il a fait dans son journal de deuil, il n'a pas fait des élucubrations théoriques sur la mort ou l'après-mort, etc. Il est resté extrêmement concret sur cette toute petite chose-là, peigner quelqu'un, mettre un peignoir à quelqu'un, lui toucher la peau, aller acheter sa petite pâtisserie préférée, etc. Et ça, c'est bouleversant, et la vie, elle se niche là.
On dirait qu'il a vu votre pour finir en beauté, Roland Barthes. Ça veut dire, est-ce qu'en faisant de la mort de votre mère un objet théâtral, ça rend sa mort moins réaliste? La mort de votre mère moins réaliste?
En tout cas, c'est vrai que ça en fait une figure comme ça, flottante, un peu irréelle. Et d'autant que le spectacle se finit par sa photo, son portrait qui s'affiche. Et on a l'impression qu'elle est de passage, comme ça, qu'elle revient régulièrement. Elle est de passage et elle fait un peu le tour du monde. Ça la rapproche et ça l'éloigne en même temps.
I knew a girl at the funeral. She said she was dead. She always said it would never work out. I was a body at the funeral. She had her hands all over me. She always said we would meet again. All night she whispered at the funeral. Such fright, could this really be the end? I always thought I'd be happy. Laying in the casket at the funeral. No one would comment at the grave. She really said that she loved me. It's been a long time since the funeral. I always thought I'd be remembered. She's laying flowers at the tombstone. Next time you go to a funeral, you may see her at the door. mention me, she'll get irate. I love a girl at the funeral. Everyone at my hometown knew about it. They always talk about how it's funny. They really should do away with funerals. You ain't really dead, this I swear. They take all your money and they leave you there to rot. I love the funeral.
Qui ce garçon bizarre qui s'invite sur RFI?
C'est extraordinaire, c'est Daniel Johnson, et qui est un type un peu malade, et il arrive avec un t-shirt, il est un peu obèse, il bave, et il est complètement hors des clous, et c'est devenu une star parce qu'un jour Nirvana, Kurt Cobain, a fait une vidéo et avec il portait un t-shirt sur lequel il y avait marqué Daniel Johnson. Et ça a fait de Daniel Johnson une star sortie de nulle part.
Alors on va quitter cette tonalité un petit peu art brut, Mohamed El Khatib, par la magie de la télé. Vous savez, c'est cette formule qu'on employait dans les années 80 pour retrouver le ton sarcastique et grand public que vous aimez tant de Jacques Martin interviewant Enrico Macias.
Enrico Macias, les téléspectateurs, grâce au petit rapporteur, vous découvrent comme ils ne vous ont jamais vu encore. Et avec un instrument inédit entre les bras, qu'est-ce que c'est?
C'est un luth. C'est une guitare arabe. D'ailleurs, la guitare est un instrument qui a été inventé par les Arabes. Et mon père va d'ailleurs commencer par nous interpréter un sirbar en la mineur sur un thème bien déterminé. Merci.
Cette musique orientale et cette comptine française.
Moi, je la trouve merveilleuse et elle me touche beaucoup. Je vous assure, ça me fait pleurer et je la chante à ma fille. Je suis papa depuis pas très longtemps et elle me fait pleurer parce que les gens rigolent pendant tout l'enregistrement. Il y a le côté un peu ridicule et on détourne la pêche aux moules. Mais il y a ce petit cri en arabe de maman, cette complainte. Où es-tu maman? On m'a volé mon panier, maman, tu n'es pas là. Et ça me rend l'absence de ma mère extrêmement flagrante, quoi.
Mais il y a le mélange des deux aussi. Vous êtes au carrefour de ce mélange.
Tout à fait.
Alors, je ne sais pas si vous avez la sensation d'avoir négocié un mariage d'amour entre vos deux cultures, la culture arabo-musulmane et la culture française. Je ne sais pas jusqu'où vous êtes approprié cette culture arabo-musulmane. Vous n'êtes pas bon en gardien de but, hein, vous avez déjà perdu votre arabe. Est-ce que vous diriez qu'à votre manière, vous tenez autant à votre arabité qu'à votre francité ?
De plus en plus. Et paradoxalement, c'est un peu classique et un peu cliché, mais depuis que ma mère est morte et qu'on l'a enterrée à Tanger, je suis en train de faire un film qui s'appelle Renault 12 et qui n'est rien d'autre que le retour à la terre, quoi, le retour aux racines. Et donc je suis en train de mener une enquête auprès de ma famille, mais qui étaient mes oncles et mes tantes, et qui était ma mère et qui étaient mes grands-parents. Et je refais ce trajet inverse, moi qui ai pris mes distances, et je suis en train de me réconcilier. Et puis il y a eu un autre événement politique. Il était question à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, de la déchéance de nationalité pour les binationaux. Et moi je suis un binational. Et c'est un moment où j'ai eu envie de rendre ma nationalité française et de garder ma nationalité marocaine, sérieusement, comme réaction politique à cette aberration qu'un gouvernement de gauche, après toutes les promesses, il ne faut pas oublier qu'en 1981, François Mitterrand promettait le droit de vote aux étrangers, qu'un gouvernement de gauche puisse émettre cette hypothèse-là, ça m'a profondément scandalisé.
Point. Est-ce que ça peut faire un spectacle, ça ?
Pas encore. Pas encore, parce que c'est un peu à vif. Ouais. Mais ça peut, en tout cas, c'est une réelle question.
Je sais pas vous, mais moi j'ai un peu l'impression qu'on est dans un état liquide. Grâce, cela dit, à Dominique Petitgand. Vous aimez bien les drôles d'oiseaux, vous. Hein.
Mais j'adore parce qu'il fait de la musique avec rien.
Avec la vie.
C'est extrêmement complexe, mais avec la vie.
Avec les petits riens de la vie.
Avec les petits riens de la vie, les bruits du quotidien qui l'assemblent. Et c'est un magicien, c'est-à-dire que j'adore quand l'acte poétique surgit d'accidents du quotidien.
Assez sportif aujourd'hui avec Facebook, Twitter ou en podcast sur votre application Pure Radio et bien sûr derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine avec Mélanie Wanga. À la semaine prochaine.